Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, on est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec cette nouvelle vidéo, image Fondation Bardot tournée dans un abattoir en Aveyron. On y voit des vaches tuées sans étourdissement, conformément à l'abattage rituel. Une pratique interdite en Europe, mais que la France tolère encore par dérogation. Qui aura le courage de légiférer sur ce sujet? Pourquoi la plupart des politiques ne s'intéressent finalement à la cause animale que le temps des campagnes électorales? On vous écoute au Standard Europe 1 si vous voulez que cette question, aussi cette préoccupation, soit au cœur du grand débat. Profitez de l'antenne pour vous exprimer ce matin, que vous soyez éleveur, défenseurs des animaux, citoyens, en tout cas concernés par ce sujet. On vous attend au Standard.
Hein, au Julie. 39 21, 50 centimes la minute.
Et sur Twitter, hashtag Europe 1, n'hésitez pas, on vous lit avec Julie tous ces messages. Et puis à 10h, on va parler du décrochage scolaire. 100 000 jeunes concernés en France, au grand désespoir de leurs parents, de leurs professeurs, des jeunes qui eux-mêmes vivent très mal cet échec. Qui les aide aujourd'hui à s'en sortir et qui sont ces décrocheurs? M6 lance ce soir son docu-réalité sur le sens de l'effort et les valeurs qui sont liées à ce sujet. Les témoignages, là encore, pour mieux comprendre l'actualité. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec en ce 19 février de nouvelles vidéos en caméra cachée qui relancent le débat sur les conditions d'abattage en France. Bonjour Brigitte Gauthière.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'association L214 Éthique et Animaux. On va parler de ce livre que vous avez sorti il y a quelques jours, La face cachée de nos assiettes. Alors une fois n'est pas coutume, c'est pas L214 qui publie ces images et qui les diffuse aux différentes télévisions. C'est la Fondation Bardot, grâce à leurs propres sources. Ça veut dire que vous avez aussi depuis quelques années créé les conditions d'émulation pour dénoncer ce qui se passe notamment en abattoir.
Eh ben, on espère bien, oui, parce que comme on l'explique d'ailleurs dans le livre, c'est très compliqué d'avoir des images, d'avoir des images d'élevage, de transport, d'abattage qui puissent montrer la majorité des conditions de ce que vivent les animaux, donc montrer de quelle façon ils sont élevés, notamment dans les élevages intensifs, dans ces élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur, où ils sont dans des cages, où on va pas pratiquer des mutilations à vif, ça peut être commun à l'ensemble des conditions d'élevage, et on va montrer les conditions d'abattage, donc comme vous le dites, les conditions d'abattage sans étourdissement, mais aussi les conditions d'abattage avec le pistolet Matador, donc celui qui perfore le crâne et détruit une partie du cerveau par décharge électrique, ce qu'on appelle l'électronarcose, et par le gaz, on a bien vu sur Alès, justement, et
Oudan. Les fosses à CO2 pour les cochons.
Les fosses à CO2 qui provoquent aussi de grandes souffrances pour les animaux.
Qu'on soit clair, de toute façon, ce sont des lieux de mort, ce sont des lieux d'abattage. La souffrance, malheureusement, elle existe, elle est consubstantielle.
Elle est omniprésente là-bas, on les tue de façon brutale.
Oui. Mais voilà, on essaye de comprendre comment on peut apporter de la dignité. C'est votre combat depuis une dizaine d'années maintenant. Éric Sanceau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur à la ferme de la Petite Hogue, c'est dans les Yvelines, à Aufargis. Vous êtes éleveur de bovins?
Alors j'élève des chevaux, mais plus pour le saut d'obstacle.
Oui.
j'ai quelques poules comme des races anciennes comme la poule de Houdan ou la Faverolle.
Oui.
Je commence à élever quelques cochons, pareil sur des races anciennes. Et effectivement, j'ai un gros élevage de bovins multirace. On a redonné vie à l'auroch, hein, la vache originelle, celle qu'on trouve gravée sur les murs de Lascaux.
Oui.
J'ai de la Highland Cattle, de la Limousine, de la Charolaise, Parthenay,
Aubrac.
Ces
vaches que vous élevez pour la viande. Hein.
Des vaches qu'on élève pour la viande, dans les meilleures conditions possibles. J'ai la prétention de me nommer éleveur vertueux, respectueux de l'environnement et de la cause animale. Dans mon exploitation, les vaches, lorsqu'elles rentrent à l'étable, ont de la musique classique toute la journée, en boucle dans les oreilles, elles ont du foin à volonté, elles ont de la paille jusqu'aux genoux, l'étable est ouverte, hein. Les gens peuvent venir
vérifier. Donc elles ne restent pas toute la journée dans leur stabulation.
Elles restent l'hiver dans les stabulations,
ouais.
Et ensuite elles partent en prairie en pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire qu'elles reviennent tous les 21 jours sur la même parcelle pour manger l'herbe au meilleur moment de sa pousse, pour
D'accord.
avoir le maximum de protéines et d'énergie.
Éleveur vertueux, comme vous vous qualifiez, quand vous tombez sur des images comme celles diffusées par la Fondation Bardot hier, comment vous réagissez? Car l'abattage rituel se généralise dans un certain nombre d'abattoirs pour des raisons économiques, on va en parler, et peut-être que vos vaches aussi n'écoutent pas.
C'est tout à fait intolérable. C'est tout à fait intolérable, c'est inadmissible. On ne devrait plus, dans une société moderne qui se définit en tant que telle, pouvoir assister à de tels actes de barbarie. C'est de la barbarie. On ne fait pas un travail que je qualifierais d'orfèvre pour que tout soit gâché par un mauvais transport et surtout par un abattage atroce. Faut savoir qu'une bête qui est abattue de façon rituelle, elle met plusieurs minutes à mourir. Et quelquefois, elle est pendue au crochet, découpée vivante, dépecée vivante. Enfin, c'est pas possible.
Et pourtant, Brigitte Gauthier, on nous dit que conformément au rituel, justement, halal ou kasher, mais halal en majorité, ces bêtes qui sont saignées sans étourdissement souffrent moins que des bêtes qui sont tuées différemment. Parce qu'il y a ce procédé à l'ancienne aussi qui les permet de les saigner très rapidement.
Non, on le voit bien d'ailleurs sur les images qui ont été diffusées non seulement par la Fondation Brigitte Bardot, mais celles qu'on a diffusées aussi, notamment sur l'abattoir d'Alès, dont le procès s'est tenu il y a quelques semaines.
Ouais, absolument.
Et qui a été jugé uniquement sur trois infractions qui risquent, là, le procès étant délibéré, il risque au maximum 2250 euros d'amende. Et on voyait bien sur les images l'agonie de ces animaux qui effectivement duraient plusieurs minutes, les yeux complètement exorbités par la panique. C'est vraiment malhonnête de dire que les animaux souffrent moins. D'ailleurs, les fédérations vétérinaires de vétérinaires européennes ou nationales sont unanimes là-dessus. Un abattage sans étourdissement, c'est davantage de souffrance qu'un abattage avec un étourdissement qui a fonctionné. Parce qu'on a aussi énormément de ratés quand il y a étourdissement.
Le fait est que je recevais à votre place Christophe Marie de la Fondation Bardot il y a quelques jours et qui nous disait, mais attendez, les religieux seraient susceptibles de se mettre autour de la table pour évoluer justement sur des conditions plus dignes d'abattage, avec notamment l'électronarcose qui étourdit ces animaux-là, qui ne les tue pas. Donc, ce qui signifie que selon les rites kasher ou halal, on pourrait tout de même saigner l'animal. Il est vivant, il n'est pas mort, mais il est étourdi du moins. Les religieux veulent faire le pas. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est quoi ?
Eh ben, c'est une bonne question. Alors, tous les religieux ne veulent pas forcément bouger. Il y a certains imams qui y sont favorables, d'autres non. Ça dépend des pays. Dans d'autres pays, c'est fait. L'Indonésie,
Belgique, la Pologne.
Exactement. Donc, il y a un problème franco-français là où on est un petit peu timide d'aller là-dessus. Et du coup, au lieu de se centrer sur la question de la souffrance des animaux, on prend tout un tas de précautions qui laissent finalement la voie ouverte à des personnes qui s'en prendraient simplement à une communauté, au lieu de vraiment se poser la question de comment on fait aujourd'hui, puisqu'on continue à faire tuer des animaux pour les manger, comment on fait pour que ce soit le moins pire. Et donc, on élimine les formes d'abattage les pires, donc l'abattage sans étourdissement, l'étourdissement au dioxyde de carbone pour les cochons, et puis l'abattage où on suspend les oiseaux, les poulets, les dindes, etc., d'abord par les pattes, avant de les plonger dans un bain électrique, qui sont là aussi des sources de souffrance intenses pour les animaux. Donc on a vraiment du travail pour avancer sur ces questions-là, mais on voit bien qu'en même temps, on a des élus, un gouvernement qui refuse d'avancer sur les questions de conditions animales. On l'a vu au moment du projet de loi sur l'alimentation, où des mesures qui sont pourtant pragmatiques, alors même nous qui sommes abolitionnistes, qui revendiquons quand même le fait d'arrêter de considérer les animaux comme des ressources alimentaires, avec les demandes qu'on portait, par exemple juste interdire d'élever des poules pondeuses dans des cages, interdire l'abattage sans étourdissement, interdire l'étourdissement du dioxyde de carbone. Tout ça a été retoqué, même juste poser des caméras dans les abattoirs pour avoir des outils de contrôle.
Ouais, on le rappelle, voté par les députés il y a deux ans, ce n'était pas passé au Sénat.
Sur la loi Falorni, et puis rejeté cette nouvelle loi, alors que c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Complètement.
Y compris aussi pour les poules pondeuses. Ouais. Donc on a des promesses de campagne.
On a du mal à comprendre cette inertie. Vous êtes au cœur du système, vous allez essayer de pointer du doigt ce qui ne va pas justement, et le poids éventuellement des lobbies, Brigitte Gauthier. Éric Sansot est là pour témoigner de cet élevage vertueux que vous souhaitez voir se démultiplier en France, on l'imagine bien. Nous recevons dans un instant Caroline Brousseau, qui est présidente fondatrice de l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Elle va nous parler notamment de ce projet d'abattoir mobile. On va voir ce que ça peut créer comme condition justement d'abattage. A tout de suite sur Europe 1, vos témoignages à l'avenant désormais. Vous connaissez un petit peu la teneur du sujet. N'hésitez pas à nous appeler, on vous attend Julie.
Au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur l'élevage intensif, l'hyperconsommation. Avons-nous créé les conditions de la souffrance animale ? Wendy Bouchard.
Et comment dans ce mode et dans ce modèle d'élevage intensif, on peut trouver quand même des îlots de dignité pour préserver la dignité animale ? Nous en parlons avec nos invités. Je lance un appel vraiment aux membres éleveurs de la FNSEA qui participeraient davantage à ce modèle intensif et qui peuvent nous dire désormais au standard quelle vision ils ont aussi des choses. N'hésitez pas à réagir. Je voudrais que vous écoutiez à la lumière de ces nouvelles vidéos terribles les mots de Brigitte Bardot sur Europe 1. Écoutez-la.
Si en voyant des images pareilles, les gens continuent à avoir envie de manger de la viande, c'est que vraiment, je ne comprends plus rien à l'être humain. Et non seulement on leur prend leur vie, mais on les fait souffrir 1000 morts, des tortures inimaginables, comme au Moyen-Âge, alors qu'on a les moyens d'adoucir leur mort.
Et on a posé la question sur Facebook, Julie.
Les vidéos chocs dans les abattoirs ont-elles changé vos habitudes alimentaires ? Non, à 61%.
Ouais, ça veut dire qu'il y a ce choc, Brigitte Gauthier, on vous donnera des témoignages ensuite, il y a ce choc, ce dégoût. Mais finalement, on participe d'une société.
Voilà. Bah, on participe d'une société, tout à fait. Les habitudes, elles sont d'une part tenaces. Mmh. Et puis, on a quand même un rouleau compresseur qui nous indique qu'il faut consommer de la viande, il faut en consommer beaucoup. On a vu justement la levée de bouclier de la plupart des syndicats agricoles devant l'initiative du CNRS sur le lundi vert. Le lundi vert, il proposait justement un pas pour...
Pas de viande, pas de poisson.
Le lundi, donc un petit pas. Et tout de suite, on a vu une levée de bouclier en disant que c'est pas possible, on peut pas dire et tout. Alors qu'on est d'accord sur le constat qu'aujourd'hui il y a surconsommation de produits d'origine animale, on est dans une production énorme qui fait que effectivement on a 80% aujourd'hui des animaux qui sont dans des élevages intensifs, des élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Donc d'un côté on se dit, ah bah non, nous on est hyper vertueux, on veut pas maltraiter les animaux, on veut pas les maltraiter et les tuer sans nécessité, et de l'autre on a un système qui broie des vies, 3 millions, un peu plus de 3 millions par jour, pour nourrir nos appétits énormes. Et donc, bah oui, on a un lobby, aujourd'hui un lobby de la viande qui est extrêmement fort, qui rentre dans les écoles, qui est dans les cabinets médicaux, et qui est surtout qui est à l'oreille attentive.
Dans les cabinets médicaux, je ne sais pas, parce qu'on nous dit de plus en plus que la viande rouge aujourd'hui...
Regardez les petites plaquettes dans les salles d'attente. Oui. Vous avez les plaquettes de
Eric
la
Sanso.
Viande culture viande.
Vous représentez, alors je ne vais pas dire la filière, mais vous êtes quand même éleveur de vaches aujourd'hui. Comment vous réagissez à ce poids des lobbies, à ce grand diable du lobby de la viande qu'on nous dépeint de manière parfois un peu caricaturale peut-être ?
Alors, je pense que la question n'est pas tellement celle des lobbies, elle est plus celle de la prise de conscience individuelle. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout en France, on avait des petits élevages et il aurait fallu rester petit et faire bien les choses. Manger mieux, manger moins. Chercher à d'abord la production. Et il faudrait que soit étiquetée la façon dont les bêtes sont élevées. Est-ce qu'elles sont élevées de façon naturelle ou est-ce qu'elles mangent des ensilages de maïs, des tourteaux de soja ? Vous savez que le tourteau de soja, ça vient d'Amérique du Sud, essentiellement. Ça participe à la déforestation. Est-ce qu'il ne faut pas redonner un cadre plus naturel à l'animal ? Est-ce qu'une poule, elle ne doit pas être en liberté ? Pourquoi est-ce qu'il faut les mettre dans des cages ? Ça me tue. Pourquoi est-ce qu'il faut élever des cochons qui ne verront jamais la lumière du jour ? C'est pas possible. Donc ça, il faut essayer que nos concitoyens votent avec leur carte bleue, c'est-à-dire qu'ils n'aillent plus acheter ces viandes qui sont produites de façon massive. Ouais, aujourd'hui, il faut essayer de travailler vers quelque chose de beaucoup plus vertueux, de beaucoup plus qualiteux.
Sauf que les changements d'habitude alimentaire, et cette consultation le prouve bien, sont très longs.
D'où
sont
les
très
initiatives,
longs, la transition est terriblement longue.
Effectivement, et du coup, d'où l'action normalement des institutions qui doivent nous accompagner dans un changement qui bénéficierait à tous, qui bénéficierait à la condition animale. Parce qu'on pourrait arrêter avec au moins l'élevage intensif,
majorité des exploitations aujourd'hui.
Voilà, la majorité des exploitations aujourd'hui, avec les questions environnementales, avec les questions sanitaires aussi, puisqu'on sait qu'on a un problème avec l'antibiorésistance, qui est notamment favorisée par le confinement des animaux, et puis avec la question sociale. Aujourd'hui, on a des éleveurs qui ne voient pas leur fin de mois enfin, ils ont leurs fins de mois qui sont difficiles avec 350 euros de revenus par mois. Et les ouvriers d'abattoir qui ont 4 fois plus de risques d'accident du travail que n'importe quel autre salarié. Donc, on est dans un système qui marche sur la tête, qu'on continue à faire marcher sur la tête. Le gouvernement, il nous incite à prendre des douches à la place des bains. Il nous incite à prendre le vélo ou à prendre les transports en commun au lieu de prendre notre voiture. Pourquoi on ne nous incite pas à prendre des protéines végétales plutôt que des protéines animales?
Alors là, c'est votre combat. Hein. C'est votre combat à titre personnel aussi.
Pour nous accompagner à diminuer la part de produits.
Donc, on parlera notamment végétaliens à l'école, par exemple, mais dans la fâche cassée de nos assiettes chez Robert Laffont, avec l'association L214, vous parlez notamment du broyage des poussins. Exactement. C'est quelque chose...
Et ça, n'importe quel œuf, qu'il soit bio, pas bio...
oublie, mais ce sont des petits poussins qui sont issus des poules...
Des filières poules pondeuses. Voilà, ou des filières poulet de chair aussi, ceux qui sont indésirables, qui sont mal formés.
En l'occurrence, pour les poules pondeuses, on broie à la naissance les petits mâles.
Pour le foie gras, on tue les femelles.
Voilà. Ouais. C'est un système qu'on connaît mal, qui est opaque, qu'on connaît de plus en plus grâce à vos associations. Et nous avons Caroline Brousseau avec nous pour l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Bonjour Caroline Brousseau.
Bonjour à tous, bonjour Eric.
Bonjour Caroline.
Vous connaissez Eric Sanceau, éleveur à la ferme de la Petite Hogue dans le 78.
Oui, tout à fait, il est adhérent à la FAD. Donc,
très bien.
Comme quoi, les associations de protection animale ont tout intérêt à travailler avec des éleveurs vertueux qui veulent aussi reprendre en main les choses. Et ça, c'est important, je tenais à le dire.
Et là, vous parlez à tous les citoyens qui nous écoutent, consommateurs, comment consommer de la viande sans entretenir un système qui nous dépasse ou qu'on aborde précisément, Caroline Brousseau. Comment vous vous y prenez, vous, avec votre association?
Alors, en fait, nous, on estime en fait que les changements en matière d'étiquetage et de traçabilité viendront nécessairement de la pression des consommateurs.
Oui.
On le voit, ils sont de plus en plus exigeants concernant les informations relatives au mode d'élevage. On va aller vers du label, des choses comme ça. Sur la question de l'abattage, aujourd'hui, on n'a aucun étiquetage. Donc je pense que c'est vraiment cette pression des consommateurs qui fera évoluer les cahiers des charges des distributeurs.
On ne sait pas, par exemple, Caroline Brousseau, je vous interromps, si la viande a été abattue selon des rituels religieux à la
Loukachère.
On ne sait pas. Ouais.
Effectivement, donc c'est vrai que nous on milite en faveur d'un étiquetage obligatoire de la méthode d'abattage.
Mmh.
On a proposé des amendements dans ce sens lors de la loi alimentation. Malheureusement, ils ont été retoqués, mais effectivement, ça c'est un indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur en matière d'abattage ne peut pas faire un choix éclairé.
Absolument.
Puisqu'il n'a pas d'information.
Oui.
Et nous on propose un système de code numérique 1 ou 0. Avec étourdissement ou sans étourdissement.
Oui,
donc quelque chose de neutre,
pour information,
de simple.
Pour information.
Exactement, comme aujourd'hui pour les œufs, vous voyez.
Oui, sachant que vous n'êtes pas, vous, avec votre association, contre la consommation de viande, mais pour un système raisonné, dont on parle autour de la table d'ailleurs aujourd'hui.
Tout à fait, un système raisonné, comme disait Eric, beaucoup moins, mais beaucoup mieux, en favorisant des petits élevages paysans, et en réduisant sa consommation.
Mmh.
On ne pourra pas faire évoluer les conditions d'abattage si on continue à consommer autant de viande.
Oui.
Ça, c'est une évidence.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, il y a des cadences qui sont tout simplement abominables.
Bah, je vous cite, hein, L214, abattage industriel, une vache toutes les 40 secondes abattue dans ces conditions. Forcément, il y a de la souffrance, forcément, il y a des excès, des dérives, Brigitte Gauthier.
Bah, forcément, oui. Enfin, c'est 3,1 millions tous les jours. Donc là, en ce moment même...
3 millions d'animaux ou de vaches ?
3 millions d'animaux,
ouais.
Tous les jours. Une majorité d'ailleurs, 7 sur 10 qui sont abattus aujourd'hui, même 8 sur 10, ce sont des poulets.
Mmh.
Donc, un rythme infernal. Sur l'étiquetage, bien sûr que c'est important que les citoyens puissent s'y retrouver, les consommateurs puissent avoir un choix éclairé. Mais moi, j'irais même plus loin sur le mode d'abattage, quoi, qu'on puisse choisir si... la viande qu'on choisit, l'animal dont c'est issu, de quelle façon il a été abattu. Mais l'étiquetage ne suffit pas, c'est comme pour les œufs. Aujourd'hui, on voit bien, l'étiquetage sur les œufs, ça fait un petit moment que c'est mis en place, depuis 2004.
Mmh.
Et pour autant, si on n'a pas d'interdiction d'élevage en cage des poules pondeuses, aujourd'hui encore, on a plus de 6 poules sur 10 qui sont dans des cages. Donc il faut bien à un moment...
Il y a des grandes marques qui jouent le jeu, justement, qui sont en lien avec les consommateurs.
Voilà, il y a beaucoup de marques. Nous, on a convaincu plus d'une centaine d'entreprises à ne plus utiliser ou vendre d'œufs de poule élevés en cage de batterie. Donc des supermarchés, des fabricants, de l'hôtellerie-restauration. N'empêche que les industriels, comme le groupe Avril, par exemple, ont fait évoluer leur marque publique, Matine, en disant « bah oui, on s'engage à ne plus utiliser de poules élevées en cage de batterie sur cette marque-là ». Mais tous leurs ovoproduits, c'est-à-dire les produits qui vont être transformés, les œufs qui vont être transformés, là, ils ne se sont pas engagés. C'est-à-dire qu'aux consommateurs, on lui dit oui, pas de problème, regardez, voilà. Les œufs coquilles, c'est bon.
Ce que décrit Brigitte à l'instant, ça me fait penser à une réflexion que j'ai depuis déjà quelques années. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mal à tordre le bras aux grands groupes. Il faut être clair, ils sont très puissants, ils sont trop puissants. Mais par contre, en local, on a des initiatives formidables. Moi, je travaille conjointement avec des chefs étoilés, mais également avec une grande surface de Rambouillet, Leclerc Rambouillet, pour ne pas le citer, où le directeur du Leclerc fait travailler 140 petits producteurs locaux. Aujourd'hui,
avec
il est
des
d'accord...
marges qui sont suffisantes pour eux, pour vous ?
Alors, ah oui, nous, très bien. Alors vraiment, d'accord. on n'a pas à se plaindre, on vend beaucoup mieux que dans d'autres filières.
D'accord.
Ah oui, on vend très bien. Mais avec Caroline Brousseau, justement, vendredi, on avait également Aurore Berger qui était là. Moi, j'ai revu la responsable environnement de la région Île-de-France, Anne Cabri, hier. J'ai eu au téléphone le nouveau président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. On travaille vraiment en local pour améliorer les choses. Le directeur du Leclerc est d'accord aujourd'hui pour mettre sur son étiquetage comment les bêtes ont été élevées et abattues. Voilà, c'est pour donner une information, parce que justement, on est dans un dialogue, on est dans un discours. Et j'invite d'ailleurs la famille Bigard, s'ils veulent, à débattre avec eux pour voir ce qu'on peut faire au sein de leurs abattoirs, notamment la méthode Marie Temple Grandin, qui équipe la plupart des abattoirs nord-américains, où il y a beaucoup moins de stress et de maltraitance animale. Oui. On peut évoluer avec ça.
La famille Bigard, qui est détentrice de la majorité des abattoirs
évoluer.
De France.
Oui, ce sont des industriels, c'est des gens qui ont créé de l'emploi, c'est des gens qui maintiennent l'abattage.
Mais je pense qu'ils conservent une opacité sur le sujet, qu'ils ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe derrière les murs des
abattoirs. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas, je pense qu'il faut discuter avec eux. Je lance un appel aujourd'hui, voilà, s'ils veulent, moi je suis prêt à discuter avec eux, je représente un petit peu de monde, on a l'oreille de beaucoup de politiques et qu'ils viennent à la table, qu'on discute.
Mais ils ont été à la table de la commission parlementaire, ça n'a pas donné grand chose.
Parce qu'on essaye de leur tordre le bras.
D'accord. Mais laissons les éleveurs comme vous.
Il faut dialoguer avec eux.
Dialoguer avec, très bien. Avec, par exemple, la famille Bigard, on a entendu votre appel lancé.
Voilà, avec plaisir.
Éric Sansot, vous restez avec nous, Caroline Brousseau. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous proposez pour réformer les modes d'abattage, au-delà de la transparence que vous venez de nous décrire. N'hésitez pas à nous appeler comme Nicolas, agriculteur au 3921, pour témoigner de ce modèle intensif qui peut-être vous dépasse, comment on peut éviter les dérives sur la souffrance animale aujourd'hui. On fait le tour de la question jusqu'à 10h avec Julie qui vous attend.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons de la maltraitance des animaux d'élevage et du processus d'abattage. Wendy Bouchard.
Et Caroline Brousseau, présidente fondatrice de l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Je vous lis un tweet que je reçois à l'instant sur le hashtag Europe 1 d'Hélène. J'en ai marre d'être culpabilisée parce que j'aime manger de la viande. Est-ce que vous pouvez répondre à cette auditrice aujourd'hui ? On ne cherche pas à culpabiliser, simplement à montrer comment on fait évoluer ce système. Et vous êtes la première à le faire.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait notre position. On ne pas culpabiliser les gens, mais essayer avec les consommateurs, les éleveurs, les exploitants d'abattoirs, les vétérinaires, de trouver des solutions concrètes. Et en fait, il y a quelque chose qui a émergé ces dernières années, c'est les abattoirs mobiles.
Oui.
Donc c'est un concept qui est déjà développé en Suède, en Allemagne. Nous, ça fait 3 ans que l'association travaille dessus pour voir dans quelle mesure on pourrait le dupliquer en France. Et on est content car le projet de loi alimentation a ouvert la voie à une expérimentation de 4 ans en France de ces structures d'abattoirs mobiles.
C'est-à-dire que vous allez dans les fermes ?
C'est ça, c'est un abattoir mobile qui va de ferme en ferme.
Oui.
Donc l'élément fondamental en matière de bien-traitance animale, c'est qu'il y a l'absence de transport pour les animaux, qui est souvent très anxiogène et très traumatisant. Il y a la présence de l'éleveur qui est possible aussi lors du processus d'abattage. Et surtout, ces animaux qui sont abattus sur leur lieu de vie n'ont pas à subir le stress et l'attente en bouverie dans un abattoir avec d'autres animaux qu'ils ne connaissent pas, des congénères, ce qui peut être aussi très stressant. Donc c'est vrai que ça c'est une solution que nous on défend au sein d'un collectif aussi quand l'abattoir vient à la ferme.
Oui, alors ça coûte très cher, hein. il faut le préciser quand même, c'est entre 600 000 et 700 000 euros, c'est ça ce type d'abattoir mobile ?
Oui, voire un peu plus, par exemple on a une éleveuse, Émilie Janin en Côte d'Or, qui va normalement importer le premier abattoir mobile en France, donc c'est un modèle suédois, et effectivement c'est un outil là qui est composé de 2 à 3 remorques et qui va être aux alentours de 1,5 million, 2 millions d'euros.
Ouais. Voilà. Éric Sansot, par exemple, bon, vous connaissez cette initiative de la FAD. On est dans, je vais pas dire qu'on est dans quelque chose encore une fois. Là, on parle de mort, on parle de souffrance, mais dans quelque chose de plus vertueux pour ce qui vous concerne et dans le rapport que vous avez aussi à vos bêtes.
Alors, malheureusement, on ne peut pas le mettre en place dans toutes les régions. J'aimerais bien que dans notre région, il puisse être mis en place, mais le Sud Yvelines, enfin les Yvelines, c'est 100 éleveurs, donc c'est compliqué aujourd'hui de se déplacer d'élevage en élevage.
Et de faire
un minimum. On n'a pas suffisamment de production par chez nous, alors qu'on est quand même juste aux portes de Paris. Donc, on pourrait mettre en place, si on mettait en place des filières directes avec les boucheries parisiennes ou la grande distribution parisienne, on pourrait redonner vie à l'élevage francilien, et dans ces cas-là, le camion mobile serait une très bonne solution. On n'a plus d'abattoir dans le coin.
Vous sauriez, Eric Sansot, comment sont abattues vos bêtes?
Tout
parce qu'aujourd'hui, vous l'ignorez.
On l'ignore. Alors,
Non, pas du tout.
Je vais vous dire, je fais vachement gaffe. On a quelqu'un qui nous emmène dans un petit camion individuel, nos bêtes à l'abattoir, et on connaît le responsable de la bouverie, on l'appelle, on a une relation avec lui. On espère qu'il fasse les choses au mieux. Et quand on a des animaux hors gabarit, qui ne passent pas dans les couloirs habituels, alors ça, c'est une vraie problématique, parce que là, ils sont, si jamais on ne fait pas ce qu'on appelle un abattage d'urgence, ou si on n'a pas un petit peu d'amitié avec ces gens-là, la bête, elle souffre terriblement pour les derniers instants de sa vie, parce qu'ils vont mettre en place des moyens de coercition terribles. Ouais. Alors, on a la chance, dans certains abattoirs, je ne peux pas citer, parce qu'ils ne voudraient pas, mais qui nous abattent la bête ou les bêtes directement dans la camionnette, pour éviter, comme ça, on est avec eux, ils sont abattus devant nous et on n'a pas cette problématique de la coercition, du stress, de la maltraitance.
Nicolas, Cathy, Mélanie sont avec nous au 39-21. On fait une petite pause avec vos témoignages. Élevage intensif, hyperconsommation, que faire pour éviter les dérives et les politiques doivent-ils enfin s'emparer du sujet? A tout de suite avec nos invités.
De nouvelles vidéos transmises par la Fondation Bardot, des vidéos en caméra cachée bien sûr, relancent le débat sur les conditions d'abattage. Wendy Bouchard.
Oui, puis-je encore compter sur vous? Voilà ce qu'a demandé Brigitte Bardot à Emmanuel Macron. Elle l'avait rencontré l'été dernier, il l'avait assuré d'un certain nombre d'évolutions, mais rien. L'entourage du chef de l'État l'assure aujourd'hui, la question du bien-être animal est essentielle et Emmanuel Macron souhaite des avancées. Le président a décidé de missionner le ministre de l'Agriculture, notamment concernant cet abattage sans étourdissement. Vous levez les yeux au ciel, Brigitte Gauthier. Vous n'y croyez pas du tout?
Non,
on peut quand même, à un moment donné, leur faire peut-être confiance.
On attend du concret aujourd'hui et on ne le voit pas venir. Enfin, il y avait des engagements d'Emmanuel Macron au moment de la campagne présidentielle, simplement sur juste...
Caméras, par exemple, de surveillance dans les abattoirs.
Et l'interdiction des poules pondeuses en cage. Oui. Et au moment où ils avaient l'opportunité de le faire, c'est-à-dire la loi alimentation, ça n'a pas été fait.
Emmanuel Macron? De toute façon, on respecte la loi européenne, qui est peut-être indigente sur le respect des animaux, mais elle est comme ça. Et puis, donc, pour l'instant, on n'a pas besoin d'être plus vertueux.
Non, pas du tout. C'est même pas ça. Enfin, au moment des prises de parole, au moment de la loi alimentation, c'est il faut faire confiance aux filières, il faut faire confiance... aux gestionnaires des abattoirs, etc. Donc, on leur laisse la main sur tous ces sujets.
Ouais.
Ben, c'est pas le rôle, justement, des institutions. Quand on détecte un problème, et on l'a bien montré à travers, sur les questions des abattoirs, à travers toutes les vidéos qu'on avait montrées depuis 2015, et encore la dernière qui vient de sortir de la Fondation Brigitte Bardot, on montre bien que dans les abattoirs aujourd'hui, il y a énormément de souffrance. Alors, bien sûr, on n'éliminera pas la souffrance totalement dans les abattoirs, c'est pas possible. C'est des lieux de toute façon brutaux et cruels pour les animaux par définition. Mais on peut essayer de la faire reculer.
Et là, on n'a pas la
volonté politique en changeant de mode d'alimentation. Je voulais revenir sur la culpabilité. La culpabilité, ça nous appartient. Hein. Moi, si je vous raconte de quelle façon on fait la purée de pommes de terre, comment on arrache les pommes de terre, comment on les jette dans l'eau bouillante,
etc.
C'est
Hélène qui nous dit vous nous culpabilisez parce que moi, j'aime manger de la viande.
Ça lui appartient, en fait, cette culpabilité. Nous, on essaye de mettre des cartes sur la table, on essaye de montrer des faits, des preuves, on avance des arguments. Ça touche les gens ou ça ne les touche pas. Mais la culpabilité, finalement, ça leur appartient. Nous, on veut soulever un débat.
La consommation de viande a baissé de 14% ces 10 dernières années. Il y a une petite tendance. Éric Sansot, tout à l'heure, vous disiez on n'arrivera pas à avancer si on tord le bras des industriels, de la grande distrib, etc.
Parce que c'est une prise de conscience de chacun. Frédéric Lenoir a écrit un très beau livre qui s'appelle « Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment ». Aujourd'hui, on sait que les animaux... Enfin, je le savais moi depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai
Vous
toujours eu
grand cavalier déjà.
Merci beaucoup.
Beau rapport au cheval.
Et si vous voulez, les animaux, ils sont doués de sentiments. Ils ont peur, ils souffrent, ils ont conscience de ce qu'ils sont, ils sont conscients d'aller mourir. Donc, on se doit évidemment en amont de les élever au mieux, dans la meilleure façon naturelle pour eux de vivre. Et il faut absolument discuter, négocier aujourd'hui avec les abattoirs. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. C'est une situation qui ne va pas. Les gens le savent, les gens s'en rendent compte.
Oui, mais
si la consommation de viande baisse, c'est qu'il y a une raison.
Bien sûr, et il y a un système qu'on doit connaître aussi, et notamment, je renvoie à la lecture de ce livre-là, il faut mieux le lire à jeun, La face cachée de nos assiettes, pour le coup, chez Robert Laffont, Brigitte Gauthier, où vous expliquez notamment que 60% de la viande de cheval qu'on consomme en France provient des États-Unis. Ce sont des chevaux qui ont été utilisés pour l'équitation, qui sont bourrés d'antibiotiques en l'occurrence, qui sont réformés ensuite, qui sont abattus ensuite et qui arrivent dans les assiettes de ceux qui consomment du cheval en France. Faut le savoir.
Tout à fait. Oui. On a mené une enquête
en Pologne,
plusieurs années.
Sans compter le trafic.
Voilà. Alors, c'est des animaux. En fait, en France, on mange encore de la viande de cheval, mais des vieux chevaux. Les poulains, on les envoie en Italie.
Non. On mange des jeunes chevaux. Tous les réformés
peu.
De course.
Les réformés de course,
ils ont 18 mois, 2 ans, 3 ans.
Mais
il y a encore du jeune cheval.
On ne
leur trouve pas de solution, d'ailleurs.
Les poulains, on les envoie plutôt côté italien. Et effectivement, aujourd'hui, on a encore 60% de la viande de cheval qui provient des Amériques. Alors, ils ne sont pas abattus aux États-Unis. Justement, ils font des longs trajets pour aller être abattus, soit au Canada, soit au Mexique. Ça s'est un peu arrêté. Mais par contre, en Argentine, au Brésil, etc. Et effectivement, on a des équipes qui ont suivi là-bas.
Il y a une mondialisation de ce système aussi. Voilà,
c'est un système mondial.
D'ailleurs, petit message au président de la Fédération française d'équitation. Si sur les licences, on pouvait rajouter 1 ou 2 euros pour assurer la retraite des vieux chevaux qui ont fait le club, les vieux poneys, etc. Travailler avec des fondations, voilà.
Merci.
Vous êtes les bienvenus.
Mais il y a tous les jeunes aussi que vous
mentionniez.
Évitez qu'ils
aillent à la boucherie, ces chevaux-là.
Voilà, les chevaux qui ne sont pas retenus justement pour faire de la course, qui sont nés pour ça, entre guillemets, et qui ne sont pas retenus, qui eux aussi partent dans le circuit de la viande tout de suite. Enfin, on a très peu de retraites pour les chevaux aujourd'hui. Oui. La plupart vont dans le circuit de la viande également, mais comme l'ensemble des animaux, malheureusement.
Merci en tout cas pour cette adresse à la Fédération française d'équitation. Je vous suis largement sur le sujet.
Merci,
Eric Sanceau. Olivier va être avec nous dans un instant, producteur de lait. Mélanie est au standard au 39-21. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et merci de participer à cette émission. On vous écoute.
Mais merci beaucoup de me recevoir. J'apprécie pouvoir témoigner.
Dites-nous, qu'est-ce qui vous préoccupe dans ce sujet ?
Oui. Ce qui me fait beaucoup de mal et ce qui est très touchant, c'est que nous sommes dits dans un pays riche, évolué au niveau des technologies, et il n'y a rien de fait pour les animaux. Nous n'avons aucune situation d'urgence de déclarer, hormis les associations qui nous montrent des images qui sont insoutenables. Il n'y a rien de fait pour les soulager, parce que même si ça existera de tout temps de les abattre, moi je trouve que c'est lamentable de ne pas faire évoluer un pays riche dans le sens où les animaux devraient partir avec une dignité et non avec une souffrance comme c'est montré dans les images.
Oui.
Mélanie, une petite
Eric
question.
Sanceau,
est-ce que vous êtes adhérente à une association type AFAD ou Fondation Brigitte Bardot, ou encore
L214.
Plus extrémiste, L214, d'accord.
Est-ce que ça veut...
Voilà, donc moi je suis plus dans l'extrémiste exactement, je suis d'accord, mais après je
Ça veut dire quoi Mélanie? Ça veut dire que vous êtes végétarienne ou vous mangez un peu de viande?
Oui,
vous êtes végétarienne,
non,
vous avez fait ce
totalement
choix.
Totalement végétarienne et je suis en cours de passer végétalienne parce que je m'instruis sur tout ce qui peut passer autour de nous et je trouve... impossible de supprimer une vie pour pouvoir se nourrir. Mais après, ça reste de mon opinion personnelle.
Oui, pour l'essentiel, et autrement, on a bien entendu votre discours, c'est une société moderne doit aussi s'interroger au traitement qu'elle inculque, en l'occurrence, à tous ces animaux que nous mangeons. Éric Sanson est là, Sanson, pour prouver aussi que les élevages vertueux, il y en a de plus en plus. Vous travaillez d'ailleurs, Brigitte Gauthier, beaucoup avec la Confédération paysanne.
Beaucoup. C'est beaucoup dire.
On essaie de cheminer un petit peu sur cette réflexion-là.
Alors pour nous, c'est très important, effectivement, de pouvoir cheminer avec l'ensemble des parties prenantes.
Oui. La FNSEA aussi ?
Ben, ce serait pourquoi pas possible. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais par exemple, avec la Confédération paysanne, on s'est retrouvés ensemble, côte à côte, pour lutter, par exemple, contre l'élevage des 1000 vaches, contre des projets, justement, d'élevage intensif qui continuent d'apparaître un petit peu partout en France. Et ça nous semble vraiment important. On a un boulevard quand même sur 80% des choses, on va être d'accord de dire, bah oui, l'élevage intensif, donc ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux, où on les entasse par centaines de milliers.
Ça, c'est pas possible.
Ouais. Là, on va être faut totalement d'accord là-dessus. Je reviens sur association extrémiste. Non, c'est association extrêmement pacifiste. Voilà.
On ne peut pas faire tuer des animaux. Voilà.
Et effectivement, on est une société en pleine progression. On a fait des progrès techniques absolument extraordinaires, des progrès en éthologie dont vous avez parlé. On sait que les animaux aujourd'hui sont sensibles et conscients. On a fait des progrès aussi en nutrition. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune utilité à consommer des produits d'origine animale pour vivre en bonne santé maintenant. Et donc, du coup, oui, ça nous appelle à nous interroger, mais comme le faisait déjà Pythagore, hein, sur la légitimité à continuer à tuer des animaux pour les manger. Donc là, aujourd'hui, on en est au stade de se dire, la façon dont on les traite aujourd'hui, même pas, ça ne nous correspond même quand on mange de la viande.
C'est déjà énorme.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà un peu
important.
Mais
gardons quand même en tête qu'on peut quand même se projeter au-delà.
Comme le fait Mélanie, par exemple, qui est en train de devenir végétalienne. Merci pour votre témoignage, Mélanie. Éric Sorceau, je vous ferai réagir. Puisque vous citiez la Confédération Paysanne, je dois dire que nous leur avions lancé l'invitation et qu'aucun membre n'a pu ou n'a souhaité s'exprimer. Mais nous sommes de toute façon avec un éleveur vertueux. Et c'est l'essentiel de vous avoir, Éric Sanceau. N'hésitez pas, juste après la pause, nous avons Olivier qui est producteur de lait qui réagit au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment concilier le mode de consommation actuel et un élevage plus raisonné? Comment trouver un terrain d'entente avec une partie du monde rural pour réduire l'élevage intensif? Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce domaine. Wendy Bouchard.
Avec une nouvelle vidéo choc diffusée par la Fondation Bardot sur l'abattage sans étourdissement, notamment dans un abattoir de l'Aveyron. C'est des vidéos choc qui vous dégoûtent, qui vous font sursauter, mais qui ne changent pas profondément encore vos habitudes alimentaires. Vous êtes 61% à nous dire que voilà, vous êtes sous le choc, mais vous continuez accessoirement à manger de la viande. Et on peut comprendre quand ce sont des habitudes aussi enracinées, lorsqu'on se sent bien quand on mange de la viande. Enfin, ouais, y a beaucoup de choses. Éric Sanceau, vous qui êtes éleveur à la ferme de la Petite Dogue dans les Yvelines, éleveur de vaches notamment, il y a beaucoup de choses qui nous collent encore à la peau.
Oui, mais les choses ne sont pas immuables. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne viennent pas adhérer déjà sur les associations? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui, en prenant une carte à 10 euros à la FAD, par exemple, ne font pas valoir leur voix? D'autre part, on parlait tout à l'heure de ces pauvres éleveurs qui ne gagnent que 350 ou 400 euros par mois. En Italie, où le slow food est beaucoup plus développé, les éleveurs, les agriculteurs en général, ont vu leurs revenus multipliés par 4.
Comment on peut traduire le slow food?
Le slow food, c'est donner le temps aux vrais fruits, aux vrais légumes et aux vrais animaux de grandir, d'être élevés dans leur milieu naturel, sans les intrants, sans tous les produits chimiques, sans les feedlots, sans tout ça. C'est redonner la qualité du produit.
Il y a plein d'éleveurs, d'agriculteurs qui nous écoutent, qui peuvent...
Sur le vivant du sol, bien sûr, parce qu'ils vendront beaucoup plus cher leurs produits. On a essayé de rentrer dans une logique de production après-guerre, et puis on a avec l'Europe, là, on a développé à outrance les grandes fermes, les grandes cultures, toutes ces grandes choses.
Alors,
fallait toujours aller plus vite, fallait toujours moins de personnel, fallait toujours plus de produits chimiques, fallait augmenter les chiffres, les nombres, les cadences. Ça marche plus, ça. Faut arrêter.
On a envie de sortir de ça et de vous écouter sur cette tendance du slow food. Je ne sais pas si c'est aussi votre point de vue, Olivier, vous qui êtes producteur de lait. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
D'où nous appelez-vous, s'il vous plaît, et où produisez-vous votre
Alors, moi, j'habite... moi, j'ai 54 ans, je suis producteur de lait depuis plus de 30 ans maintenant.
Oui.
Et j'habite dans la Manche, près de Avranches.
D'accord. Vous inscrivez-vous dans le mouvement dont vient de parler, juste pour commencer, Éric Sanceau, le slow food, prendre le temps de bien faire? Est-ce que vous avez le temps, dans les conditions qui vous sont données, de faire les choses éthiquement, vertueusement?
Eh bien, moi, je suis déjà éleveur dans l'âme. Hein,
oui.
Donc, moi, déjà, je fais naître des animaux, je les élève et je les vends. Hein. Alors, soit les femelles restent pour produire du lait, et les mâles, je les garde. Ils sont élevés à l'herbe, évidemment. L'hiver, ils sont rentrés. J'en prends soin et je les vends quand ils ont 2 ans et demi, 3 ans.
Mm-hmm.
Alors, c'est vrai qu'ils sont... C'est un système légèrement intensif, mais avec un grand respect de l'animal. Hein, comme je disais tout à l'heure au standard, moi, quand j'ai des animaux qui partent, je fais une prière à Saint-François et Sœur Marthe de façon à ce qu'ils n'aient pas peur, à les protéger. Vous allez certainement sourire, mais c'est pourtant ça. Mmh. Nous, éleveurs, on doit être responsables jusqu'à la fin.
C'est un sourire bienveillant.
Oui, oui, oui. Il vous comprend.
Et moi, ce qui me gêne énormément, c'est de voir toutes ces atrocités dans les abattoirs. Et franchement, ça me fait vraiment mal au cœur pour mes animaux. Voilà. Hein, c'est honteux.
Oui, parce que vous vous sentez victime aussi d'un système qui vous dépasse. Vous prenez soin au mieux de ces bêtes. Et après,
complètement.
Voilà.
Ouais, complètement, je veux dire. Et je pense qu'aujourd'hui, le respect, c'est autant vrai pour l'homme, mais aussi vrai pour l'animal. Hein. Mmh. On doit considérer un animal comme un être vivant et le respecter jusqu'à la fin.
Et est-ce que le fait de mieux traiter vos animaux, d'en prendre soin et de faire attention à la qualité que vous produisez, vous arrivez à valoriser davantage votre lait ou vous êtes toujours malheureusement sous le joug de ces énormes groupes qui vous tordent le cou pour avoir des prix toujours plus bas ?
Tout à fait, moi je suis sous ce joug-là, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je pense que j'ai 54 ans, bon je devrais revoir mon système, bon malheureusement j'arrive en fin de carrière. Mmh. La priorité avant a toujours été pour mes animaux quand même, et mon revenu bien entendu. Hein. J'essaie de pallier les deux, c'est-à-dire de gagner ma vie tout en essayant de bien faire mon travail. Et j'ai pas honte de vendre mes animaux. Les gens qui mangent mes bœufs, j'ai pas honte de les vendre parce que je sais que ils sont de qualité. Je ne mets pas de cochonneries. Ils sont élevés avec amour. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout
dans des
fait.
Pâtures.
Oui, et on sent Brigitte Gauthier l'émotion d'Olivier qui en parle vraiment avec le cœur serré lorsqu'il voit ses animaux partir à l'abattoir. Il ne sait plus ce qui se passe là-bas.
Non, mais c'est horrible de voir partir ces bêtes.
Ah, c'est horrible.
Vous témoignez,
vous êtes éleveur également. Je peux même pas les regarder monter dans le camion, c'est pour vous dire.
Moi, je les fais monter dans le camion, ça me fait toujours bon. Ça fait partie de notre métier.
Je sais bien, mais
un passement au cœur.
C'est un paradoxe, c'est vrai, Brigitte Gauthier.
Mais c'est tout à fait un paradoxe où on a des personnes qui ne veulent pas de mal aux animaux. Personne, finalement, à part.
C'est très rare. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Ça arrive.
Et on se retrouve à traiter les animaux comme de simples objets au final. Alors on peut être attentif à la façon dont on les élève, mais la finalité c'est quand même de les envoyer à l'abattoir pour se faire tuer. Et à l'abattoir, enfin, ils sont pas accueillis non plus par des gens qui leur veulent foncièrement du mal, sauf qu'on leur dit leur mission c'est de tuer autant d'animaux à une cadence. On peut pas parler de bien-être animal dans un abattoir, on peut pas parler non plus de bien-être au travail dans un abattoir. On a vraiment un système. Alors là on nous dit système économique, faut bien que je les vende pour gagner ma vie, etc. Et en fait c'est un système qui conduit à l'endettement,
oui,
etc.
Caroline Brousseau, vous êtes toujours avec nous pour l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité, et vous êtes en ligne avec Olivier, producteur de lait, qui nous disait vraiment la gorge chérer le mal qu'il a envoyé ses bêtes à l'abattoir. Est-ce que vous pouvez, par exemple, est-ce que l'abattoir mobile pourrait être une solution, entre guillemets, pour lui, pour ce genre d'exploitation?
Tout à fait. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'éleveurs qui manifestent le besoin d'accompagner leur animal jusqu'au bout, d'assumer cette mort, et puis de reprendre en main cette partie de l'abattage. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des groupes qui se structurent dans différentes régions.
Dans la Manche, par exemple,
Loire-Atlantique. Dans la Manche, pas que je sache, la Loire-Atlantique, on a un projet dans le Gers, on a un projet en Normandie.
En Normandie, oui.
Voilà, avec des éleveurs quand même qui veulent se réapproprier des outils. Donc, il y a bien sûr cette question, cette solution des abattoirs mobiles, mais il y a aussi la reprise en main de petits abattoirs de proximité par les éleveurs eux-mêmes, et qui s'engagent dans une révolution des pratiques et qui quelque part aussi mettent tout en œuvre pour que eux-mêmes, ils puissent gérer l'outil et gérer leurs animaux.
Olivier,
et s'assurer
ça
que tout est fait correctement.
Je voulais seulement finir par quelque chose.
Bien
je veux
sûr.
Quand même féliciter l'association L214, parce que je sais que, bon, je me mets mes collègues à dos en disant ça, certainement, mais c'est pas grave, qui ont le courage d'aller dans les abattoirs, de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'en serais bien incapable, j'avoue. Hein. Heureusement qu'il y a encore des gens dévoués qui donnent de leur temps pour dénoncer ce genre d'atrocité. Voilà.
Oui, parce que ça fait du mal à l'essentiel de la profession, et vous rejetez ce système aussi qui vous dépasse.
Ah, mais un éleveur qui traite mal ses bêtes, et quand ça se sait, c'est ce qui s'est passé récemment, ça a été mis en lumière par la Fondation Brigitte Bardot sur certains éleveurs qui, pour des raisons indéterminées pour l'instant, ont maltraité leurs animaux, ça salit toute la profession.
Ouais,
donc quand on voit des images comme ça affreuses dans les abattoirs, c'est la même chose. Ça salit l'ensemble de la profession.
Oui, mais c'est souvent des facteurs liés. C'est-à-dire que la misère des animaux, leur maltraitance, elle est souvent aussi liée à une misère des éleveurs ou des conditions de travail.
C'est pour ça que le slow food, notamment, permet de valoriser davantage la production.
Alors, je remercie vraiment Olivier pour ces mots, les mots de ce producteur de lait, éleveur également de bœuf. Merci Olivier de votre appel. Daniel va réagir juste après la pause au 39-21. Il nous appelle de Saint-Hilaire du Harcouët et il est éleveur à la retraite et sidéré par ce qu'il entend, dit-il à l'antenne. Alors, on va lui donner la parole pour qu'il nous explique mieux tout cela. Merci de votre présence pour éviter les dérives liées à l'hyper consommation, pas qu'à la consommation de viande. À tout de suite.
Pour le tour de la question sur les méthodes d'abattage des animaux d'élevage, Wendy Bouchard.
Avec Brigitte Gauthier qui publie La face cachée de nos assiettes aux éditions Robert Laffont pour l'association L214 avec différentes vidéos coup de poing qui dénoncent les conditions dans les abattoirs. Éric Sanceau, éleveur à la ferme de la Petite Hogue à Offargis dans le 78, éleveur de vaches notamment, de poules et avec un certain nombre de races anciennes, membre de l'AFAD. Et Daniel donc est au standard. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bonjour Daniel. Vous êtes éleveur à la retraite aujourd'hui et sidéré par ce que vous avez entendu. Me dites-vous pourquoi ?
Oui, effectivement, je suis sidéré d'entendre justement que les animaux sont maltraités dans les élevages.
Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit, Daniel. Hein. On a dit qu'il y avait des conditions. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit, maltraités dans les élevages. On a parlé des conditions d'abattoir, hein, pas d'élevage.
Oui, si, il y a eu un moment où on a parlé, y compris au niveau de l'élevage. Bon, non, mais dans les abattoirs, effectivement, l'abattage, on a tout intérêt à ce que l'animal ne soit pas stressé.
Mmh.
Hein, et parce que la viande en souffre, elle est pas maturée comme il faut après, et elle est pas moins bonne. Moi, ce que je trouve justement dans votre émission, c'est que on dénigre justement ce qui se passe en France, et puis c'est normal. Mais par contre, on ne dénonce pas tout ce que l'on trouve dans les rayons des supermarchés, qui ne sont pas à la même hauteur au niveau sanitaire et même au niveau de l'élevage.
Vous voulez dire par exemple des viandes qui ne viennent pas de France, par exemple?
Voilà, oui. Voilà. Et puis qui sont transportés, au niveau transition écologique.
Ah oui, et Daniel, là pour le coup, je vous invite à lire le livre de Brigitte Gauthier parce que vous le rejoignez. Le veau irlandais, vous en parlez de ces conditions de transport terribles. C'est un exemple, là, Daniel, qui va exactement dans votre sens.
Oui, exactement. Aujourd'hui, on a des animaux qui font des kilomètres et des kilomètres. D'ailleurs, des veaux partant de France qui vont jusqu'en Turquie pour se faire abattre, ça existe aussi. Enfin, aujourd'hui, le transport des animaux, il est international. Et le transport des viandes aussi, on l'a vu avec ces vaches espagnoles qui arrivent jusque nos étals en France aussi. Donc,
vous étiez éleveur de quoi, Daniel ?
J'étais éleveur laitier.
Éleveur laitier, oui.
Éleveur laitier de la Manche, mais producteur de viande aussi un peu, parce qu'il y a toutes les vaches de réforme que je finissais.
La race normande ?
Non, j'ai eu de la race normande, mais justement, il y a eu une maladie qui a éteint tout mon cheptel. Ça, on n'en parle pas beaucoup. La lutte des éleveurs sur la brucellose.
Ah, oui.
Et j'ai pas pu retrouver suffisamment de normande et j'ai pris de la primostène après.
C'est dommage parce que c'est une belle race mixte en plus, hein.
Non, mais c'est vrai. C'est
vous savez quoi, messieurs ? Je vous laisserai poursuivre ce débat-là parce que le Salon de l'agriculture ouvre vendredi et met justement à l'honneur toutes ces races d'animaux. Les conditions que nous évoquions de maltraitance physique, en tout cas dans le cadre de vie, c'est aussi lié au modèle intensif, Daniel, et pas à ce que vous faisiez, je pense, dans votre exploitation. Mais voilà, c'est une réflexion aussi qui nous engage. Il ne sert à rien de dénigrer vos métiers, mais au contraire, d'avancer ensemble.
On a bien Eric Sanceau, deux intervenants éleveurs étaient des gens passionnés et voués à leurs animaux. On sent, ils ont des trémolos dans la voix quand ils parlent du moment, les faire monter dans le camion, les transporter et l'emmener à l'abattoir. Je pense qu'il est très important d'avoir un beau regard sur la belle agriculture française. On a un super beau pays, on a un pays de petits agriculteurs. Et c'est vrai que malheureusement, les élevages intensifs et toutes ces choses ou ceux qui se font à grande cadence viennent gâcher la qualité de notre agriculture
Merci
française.
Merci Eric Sansot. Et donc, on essaiera de vous mettre face à face avec M. Bigard des abattoirs ou côte à côte, hein, puisqu'on veut avancer ensemble,
face
justement.
À face, hein, je pense qu'il faut qu'on dialogue.
Pour exactement faire évoluer la prise de conscience. Brigitte Gauthier, merci pour vos actions à L214 et ce livre, La face cachée de nos assiettes. Merci pour vos témoignages et pour Caroline Brousseau, présidente de l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. On fait une petite pause, chers amis. On va parler du décrochage scolaire. Il y a une grande docu-fiction qui commence ce soir sur M6 et qui pointe du doigt ce sujet essentiel. A tout de suite avec Julie.
Dans un instant, la météo.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.